Alors, on vient de lire 1 Corinthiens chapitre 16. Ça va être donc l'objet de notre réflexion ce matin. On clôture cette première épître aux Corinthiens que nous avons étudiée ensemble maintenant depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Alors, on a vu la semaine dernière comment Paul a exhorté les Corinthiens à tenir ferme, à être inébranlables, malgré les tempêtes qui sont passées dans leur assemblée, parce qu'ils ont vraiment vécu des tempêtes. C'était une église, on a vu, avec beaucoup de problèmes, avec des tensions, des choses difficiles. Mais voilà, Paul les recentre sur Jésus-Christ en disant, voilà, Jésus-Christ mort, ressuscité pour vous, gardez les yeux sur lui. L'évangile libère et donne une espérance qui transforme les cœurs. Et puis dans ce chapitre de fin, Paul aborde plusieurs choses. Alors, on l'a vu brièvement, il est question d'une collecte dans les premiers versets. Ensuite, il explique quelles sont ses intentions donc pour la suite de son voyage. Il donne aussi plusieurs recommandations concernant des frères et il les nomme. Et puis, il passe des salutations des uns et des autres. Et puis, il termine avec cette prière de bénédiction, que la grâce soit avec vous. Mais ses toutes dernières paroles sont « Mon amour est avec vous tous ». En Jésus-Christ. Et c'est touchant que Paul termine avec ces mots parce qu'il n'y a aucune épître où il termine comme cela. D'habitude, il termine avec cette phrase « Que la grâce du Seigneur soit avec vous ». Des fois, il ajoute une petite chose « Et avec votre esprit ». Ou voilà. Mais en général, c'est cette petite phrase qui termine. Mais là, il y a une touche personnelle, une touche intime, différente. « Mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ ». Alors, on ne va pas revenir sur tous les problèmes cités dans l'Épître, mais si on regarde un petit peu la somme de leurs problèmes, elles relevaient souvent d'un manque d'amour et d'un manque d'égard des uns vis-à-vis des autres. Il y avait vraiment un manque d'amour. On se souvient qu'au milieu d'un Corinthien, Dieu nous donne ce chapitre magistral, 1 Corinthiens 13, sur l'amour, où là, eh bien, ça expose, hein, ça montre que vraiment les Corinthiens devaient être convaincus que l'important, c'est de s'aimer les uns les autres. Ce n'est pas les dons spirituels et toutes ces choses, c'est de s'aimer les uns les autres. Et puis, chapitre 14, il dit « Recherchez l'amour ». Il commence comme ça, « Recherchez l'amour ». Et au verset 16, ici, de notre chapitre, Paul dit « Que tout ce que vous faites se fasse avec amour ». Et on va voir ce matin que c'est ça l'important. Qu'est-ce qui est vraiment important? C'est de s'aimer les uns les autres. C'est l'amour. L'amour met un baume dans les relations interpersonnelles. Il adoucit les paroles, il crée des ouvertures, il stimule le contact, le dialogue, il permet la communion fraternelle. Et Paul va encourager au travers de tout ce qu'on voit dans ce chapitre à l'amour. Même si les sujets semblent variés, on peut y voir soit une manière de montrer son amour, soit c'est Paul lui-même qui montre qu'il aime, ou bien c'est lui qui exhorte à s'aimer les uns les autres. Alors tout d'abord, il parle d'une collecte. Qu'est-ce qu'une collecte? 1 Corinthiens 16, on va relire les versets 1 à 4. « Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem les personnes que vous aurez approuvées. Si la chose mérite que j'y aille moi-même, elles feront le voyage avec moi. » Donc on l'a partagé un petit peu. On sait qu'en Israël, les premières églises, l'église primitive et l'église particulièrement de Jérusalem, étaient une église qui était pauvre. Elle a grossi d'une manière exponentielle, hein, très rapidement, en quelques semaines. Mais il y avait beaucoup de personnes pauvres et bien évidemment pas de sécurité sociale ou de choses comme ça. Alors les frères et sœurs de l'Asie et de l'Achaïe, c'est-à-dire de la Grèce, ont voulu eh bien, faire un don. Et puis Paul nomme aussi les églises de Galate. Et c'est un élan de générosité, d'amour, hein, vis-à-vis d'inconnus, parce que c'était des inconnus. Inconnus d'eux, mais connus de Dieu. Et donc, ils veulent eh bien, faire quelque chose. Et au travers de cette collecte, Dieu nous montre ce qui peut être une manifestation de l'amour. L'amour fraternel pousse à donner matériellement, pécuniairement, pour pouvoir aux besoins des autres. Malheureusement, l'argent, c'est quelque chose qui provoque beaucoup de maux et beaucoup de péchés. La convoitise, la jalousie, l'orgueil parce qu'on en possède, l'égoïsme, l'avarice, le mépris, et puis on pourrait encore citer plein de péchés comme cela. Maintenant, l'argent n'est pas mauvais en soi, c'est le cœur de l'homme qui est mauvais, c'est lui qui pervertit simplement la monnaie. Mais il y a un remède au péché que suscite l'argent. Dieu nous donne un remède, c'est la générosité volontaire. C'est un remède pour soi-même. Et Dieu invite ses enfants à la libéralité, parce que la libéralité, c'est le témoignage de l'amour vis-à-vis des frères et sœurs. Et on voit que Paul ne force pas la générosité des Corinthiens. Il ne fait que dire que chacun mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. Et le but ici, ce n'est même pas de faire un appel aux dons. Il aurait pu, hein. Peut-être c'est ce qu'il a fait aux églises de Galate. Je ne sais pas. Mais ici, simplement, il met en ordre, hein, il est en train d'organiser la manière par laquelle ça doit se faire. Et on voit aussi par ce texte que c'était une habitude de rassembler les dons le premier jour de la semaine, donc le dimanche. Un autre élément important, c'est que Paul dit « afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons ». Donc il s'agissait de recueillir les dons à l'avance. C'est intéressant aussi. Pas à attendre le dernier moment, mais à l'avance, prévoir en fait, être prévoyant. Et il y a plusieurs manières de faire un don ou de penser faire un don. Soit on donne tout de suite ce que l'on possède parce qu'on veut pourvoir, ou on met de côté tout de suite, ou bien on dit « bon, c'est pour plus tard, je vais attendre plus tard ». Et le risque, c'est que plus tard, il n'y a plus rien. Et finalement, on ne donne pas ce qu'on aurait voulu donner. Paul encourageait à une générosité que l'on prévoit à l'avance. Imaginez, vous convoitez un objet, quelque chose, ça va améliorer un peu votre confort. Ce n'est pas votre besoin, ça va améliorer un peu votre confort. Et puis vous décidez, non, finalement, cet argent, je vais plutôt l'envoyer à une famille qui est dans le besoin, que je connais. Et puis vous recevez une lettre de reconnaissance, où la famille vous dit, mais ça correspondait exactement à un besoin. On devait mettre nos enfants à l'école, il y avait une facture à payer. Nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur et à vous. Quelle bénédiction, hein ? Et souvent, c'est ça l'enjeu. C'est la satisfaction d'un besoin personnel, d'un désir personnel, je dirais plutôt. Et puis, de l'autre côté, c'est un enrichissement des frères et sœurs, hein. Un enrichissement pour l'œuvre de Dieu, et même des louanges après qui montent envers Dieu à cause du don qu'on a fait. On peut choisir. On est libre. Soit on prend une direction, soit on prend l'autre. Mais ce que j'aimerais souligner, c'est que cette collecte était une manifestation d'amour. Je vous aime. C'est ça que ça voulait dire. Nous vous aimons. Ensuite, Paul va expliquer son programme. Il va expliquer quelles sont ses intentions pour son voyage missionnaire. Donc, versets 5 à 7. Il dit « J'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, car je traverserai la Macédoine. Peut-être séjournerai-je auprès de vous, ou même y passerai-je l'hiver, afin que vous m'accompagniez là où je me rendrai. Je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous, si le Seigneur le permet. » C'est Arnaud qui le relevait. Qu'est-ce que dit Paul ici ? Il dit « Je ne veux pas cette fois vous voir en passant. » Il voulait s'arrêter au milieu des Corinthiens. C'était important pour lui. Il voulait passer du temps avec eux, avoir une vraie communion avec eux, pas juste passer vite fait. Il aime les Corinthiens. Et l'amour, ce n'est pas le fruit d'une rencontre furtive, rapide, éphémère, comme ça. Mais c'est en passant du temps. C'est quand on passe un temps prolongé avec une personne, c'est à force de se voir, de parler, de communier, d'échanger. À ce moment-là, l'affection fraternelle, elle grandit dans le cœur, elle naît, elle se développe. Et le plan du Seigneur pour l'Église, ce n'est pas juste d'être un lieu de passage où on se croise une fois par semaine, mais c'est d'être un lieu où on se rencontre, où on communie, où on passe du temps, où on a envie de se voir, on a envie de parler, d'échanger. C'est le moyen d'être ensemble. Il dit, j'espère demeurer. Demeurer, c'est voilà, une demeure, c'est où on s'arrête. Hein. J'espère demeurer avec vous, être avec vous quelque temps. Rester auprès de vous. Et si Paul peut dire, mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ, eh bien, il le vivait aussi d'une manière pratique. Mon amour est avec vous et je veux être avec vous. Ce n'est pas juste je vous aime, mais je vous aime. Et puis, je ne vous vois pas beaucoup. Ensuite, Paul leur glisse ce qu'il est en train de vivre en Asie. Regardez versets 8 et 9. Il dit, « Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. » Une information intéressante ici, Paul était retenu pour une bonne cause, pour l'évangile. C'est merveilleux. Apparemment, en Asie, là, et à Éphèse, les gens avaient soif. Soif de la parole, soif de l'évangile. Ils avaient envie d'écouter et ils se convertissaient même. C'était merveilleux pour Paul, lui qui était appelé justement à prêcher l'évangile aux païens, aux perdus. Mais pourtant, même cette porte ouverte qui lui permet d'annoncer l'évangile n'est pas au-dessus de l'amour fraternel. On va le voir ensemble. Le plan de Paul, c'était de rester en Asie jusqu'à la Pentecôte, puis après de remonter vers la Macédoine pour aller jusqu'aux Corinthes. Néanmoins, les choses ne vont pas du tout se passer comme il prévoyait. Et ce qui va amener Paul à écrire sa deuxième lettre, où il n'aura pas encore eu le temps de les visiter. Et on lit dans cette deuxième lettre, regardez 2 Corinthiens 2, versets 12 et 13. Il dit « Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y ait ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit, parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, je partis pour la Macédoine. » C'est intéressant ici. En fait, il s'avère que c'est Tite qui a amené la première lettre, première épître aux Corinthiens, dans laquelle nous sommes. Et on voit que Paul avait une double inquiétude. Première inquiétude, c'est qu'il ne revoit pas Tite revenir. Il ne le voit pas revenir. Alors, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Tite va bien? Puis sa deuxième inquiétude, c'est qu'il aimait profondément les Corinthiens. Il venait de leur écrire une lettre qui était sévère, qui était quand même, il ne mâche pas ses mots. Et il ne sait pas comment ils l'ont prise, cette lettre. Il est en train de se dire, mais est-ce que ça va? Est-ce qu'ils se sont braqués? Est-ce qu'ils n'ont pas accepté la parole, les paroles d'encouragement? Il ne sait pas. Et il est dans l'inquiétude. Il s'inquiète. Il n'a pas de repos d'esprit pour ses Corinthiens, ses frères qu'il aime dans le Seigneur. Comment ont-ils réagi? Est-ce qu'ils se sont repentis de leur péché? C'est vraiment un sujet d'inquiétude. Et on voit vraiment comment il les aimait. Mais un peu plus loin, on apprend que finalement, 2 Corinthiens 7, 6 et 7, Paul va retrouver Tite, son frère, et qui va lui amener des bonnes nouvelles. « Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi. » En sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Et là, quelle joie pour Paul, quelle joie! D'abord, il retrouve Tite et Tite va bien. Et ensuite, il apprend que les Corinthiens ont eu la bonne attitude de cœur. Ils ont reçu cette lettre, ils ont dit oui. Et puis, ils se sont courbés, ils se sont inclinés. Voilà, le Seigneur nous parle. C'est le Seigneur qui le dit, là, je l'accepte. Et donc, Paul était rassuré. Et c'est touchant de voir que Paul a une porte ouverte, une magnifique porte pour prêcher l'Évangile. Mais il aime ses frères. C'est ça qui compte dans son cœur. Il se dit, bon, Seigneur, oui, tu ouvres une porte, mais mes frères, il les aime profondément. Il veut s'enquérir d'eux à tout prix. Et on voit par son propre exemple que Paul montre l'amour. Et puis il va donner ensuite une série d'exhortations concernant des frères fidèles. Donc, il commence avec Timothée, 1 Corinthiens 16, 10 et 11. Il dit, Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi l'œuvre du Seigneur. Que personne donc ne le méprise, accompagnez-le en paix, afin qu'il vienne vers moi, car je l'attends avec les frères. Première exhortation pour Tite, il dit, prenez soin de lui. Rassurez Timothée, c'est ça qu'il leur dit. Rassurez-le. Et on sait que Timothée était un jeune homme. Quand on lit les épîtres qui lui sont adressées, on voit que c'était un jeune homme aussi qui pouvait avoir des peurs, des craintes, un peu timoré. Et il dit, mais rassurez-le. Respectez-le, quoique jeune, et rassurez-le. Accompagnez-le, c'est-à-dire donnez-lui la direction, voilà, pour qu'il puisse me rejoindre. Et il encourage au respect de celui qui travaille à l'œuvre du Seigneur comme lui. Prenez soin de Timothée, aimez-le. Verset 12, Paul parle d'Apollos. Donc Apollos qui ne voulait pas se rendre à Corinthe tout de suite. Ce qui est intéressant, c'est peut-être de voir l'attitude de Paul vis-à-vis de ce frère qui n'a pas envie de faire ce que Paul avait envie qu'il fasse. Paul ne le méprise pas et dit, bon, ce n'était pas sa volonté. Le Seigneur, eh bien, peut-être fera en sorte qu'il viendra plus tard. Une attitude de respect. Et l'amour respecte la volonté de l'autre. L'amour ne force pas. L'amour ne brutalise pas. On n'enfonce pas les portes quand on aime. Versets 13 et 14. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Et c'est intéressant ici de voir comme un contraste, je trouve, dans l'exhortation. D'abord, une parole forte, veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. En fait, ça signifie, mais soyez braves, soyez courageux, fermes, solides, forts en Christ. Bien sûr, ce n'est pas dans votre propre force, hein. C'est dans la force de Jésus-Christ, hein, dans la communion que Dieu vous communique sa force. Soyez forts en lui, hein, dans votre relation avec lui. C'est ça qui est important. Mais néanmoins, il dit, voilà, soyez des hommes. Mais juste après, que tout ce que vous faites se fasse avec. Et on peut être des hommes et en même temps agir avec amour, avec douceur. La Bible dit, le charme d'un homme, c'est sa bonté. Ce n'est pas sa carrure. Ce n'est pas sa voix grave, mais c'est sa bonté. Charme d'un homme, c'est sa bonté. Et on peut être fort et brave et en même temps être doux et humble de cœur. C'est ce que le Seigneur nous a montré, hein, comment il était ferme avec les pharisiens, les scribes, les religieux juifs. Et en même temps, c'était un homme de cœur, un homme qui aimait les foules, qui aimait les gens autour de lui. Et il serait intéressant de toujours se poser la question, est-ce que ce que je vais faire là, je vais le faire avec amour? Est-ce que ce que je vais le dire avec amour? Yaral, vraiment, ça sera empreint d'amour. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Tout, c'est absolu. Et certainement, si on suit cette recommandation, il y a des paroles peut-être que nous ne dirions pas. Des actions que nous ne ferions pas, des jugements que nous ne porterions pas. C'est l'amour qui doit inspirer, hein, les paroles, les pensées et les actions. Versets 15 à 18. Encore une recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Ayez vous aussi de la déférence pour de tels hommes. Et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre, je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïcus. Ils ont suppléé à votre absence, car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes. Donc la famille de Stéphanas faisait partie des prémices de l'Achaïe. L'Achaïe, c'est là où Corinthe se trouve, c'est la Grèce. Et donc c'était parmi les premiers convertis, premiers à avoir accepté Jésus-Christ. Et ils étaient consacrés au Seigneur, dévoués au service des saints. Et puis, il y a ces deux frères qui se sont joints à lui, à Stéphanas, Fortunatus et Achaïcus, qui étaient là encore des frères fidèles que Paul pouvait louer. Et il va employer deux expressions. Il va dire, ayez de la déférence pour de tels hommes. Et puis ensuite, la deuxième, c'est, sachez donc apprécier de tels hommes. Qu'est-ce que Dieu demande ici? Il demande d'aimer ceux qui aiment le Seigneur et qui le servent de tout leur cœur. Il demande de les aimer. Et il faut reconnaître la fidélité des uns et des autres et savoir, eh bien, aimer ces personnes-là qui sont fidèles. Et c'est évident que Dieu a choisi et veut se servir de personnes pour mener, pour conduire, pour donner la direction, pour être un exemple. Et il faut savoir reconnaître que c'est Dieu qui est en train d'agir et travailler au travers d'eux. L'expression « avoir de la déférence », c'est intéressant. Ça a été traduit comme ça par « second », mais finalement, c'est le sens faible du terme. Parce que si vous prenez presque la plupart de toutes les autres traductions, il y a un autre sens. La plupart des autres traductions choisissent d'être un peu plus littérales et disent « Je vous exhorte, frères, à vous soumettre à de tels hommes. » Ou encore « Laissez-vous conduire par de tels hommes. » Ou encore « Rangez-vous sous de tels hommes. » Ou encore « Laissez-vous diriger par de telles personnes. » Et donc, on l'a partagé ensemble, mais on voit certainement là des anciens, les anciens de l'Église de Corinthe qui œuvraient, qui se donnaient pour le service des frères. Alors bien, Paul dit, mais aimez-les, acceptez-les, soumettez-vous. Une traduction dit, obéissez, laissez-vous conduire par eux. Et puis vient un échange de salutations, versets 19 à 21. Les églises d'Asie vous saluent, Aquilas et Priscille avec l'église qui est dans leur maison vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Tous les frères vous saluent, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. Et là encore, on voit l'amour des frères et sœurs par la salutation. Les frères d'Asie saluaient les frères de Grèce. Et il y a beaucoup, eh bien, étaient venus voir Paul et disaient, mais passe une salutation personnelle. Écris-le dans ta lettre, hein, Paul. Voilà, je les salue d'une manière personnelle. Et Paul, eh bien, écrivez leur prénom. Je crois que c'est à la fin de Romains aussi. C'est intéressant de voir le dernier chapitre de Romains. Toutes ces salutations personnelles. Hein. Paul n'oublie personne. Saluez-vous les uns les autres. Hein. On voit l'amour. Hein. Ceux de l'église l'église de maison d'Aquilas et Priscille les saluaient beaucoup dans le Seigneur. Et saluer beaucoup dans le Seigneur. Darby a choisi de traduire affectueusement. Saluez-les affectueusement. D'autres ont dit saluez-les bien dans le Seigneur. C'est-à-dire vraiment avec cœur, avec cœur. Et aujourd'hui, à l'époque, il n'y avait pas de texto, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de téléphone illimité. Mais pourtant, l'amour fraternel voyageait sur un petit rouleau. Mettait des semaines parfois à parvenir, mais on se savait aimés. On était aimés les uns par les autres. Hein. Je ne suis pas sûr parfois qu'on utilise bien nos nouveaux moyens. On a tellement de moyens, hein, mais peut-être on ne les utilise pas ou pas suffisamment bien. Ils sont là à notre disposition. Hein. Voilà, communiquons l'amour. Hein. Bénissons. Paul dit « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser ». Or, bien sûr, la salutation, peut-être, elle est différente hein, d'une culture à l'autre, chez les Esquimaux ou ailleurs. Hein. Mais néanmoins, l'important, c'est ce geste d'une affection qui est renouvelée sans cesse. On renouvelle un geste d'amour. Qu'est-ce qu'un saint baiser? C'est un baiser réservé, à part. Parfois, on peut lever la main, hein, souvent pour dire bonjour à un tel dans le quartier, ou bien donner un bonjour cordial. Mais Dieu veut que pour les frères, on réserve un saint baiser. Un saint baiser. Qu'est-ce que c'est un saint baiser? C'est d'abord un baiser qui est sincère et sans hypocrisie. Et l'Évangile nous permet de donner un saint baiser. Par grâce, c'est possible, par Jésus-Christ. Il est certain que dans le monde, les hommes donnent des baisers de Judas. Hein? Ça arrive malheureusement, ils s'embrassent mais le cœur n'y est pas. Mais quand on est au Seigneur, eh bien on peut donner un baiser sincère, un baiser qui est plein d'amour. un baiser vrai, un baiser qui ne trompe pas. Et c'est possible en Jésus-Christ. On a un sauveur suffisamment puissant pour pardonner les péchés et nous apprendre à pardonner, pour nous libérer de nos amertumes et pour faire en sorte que notre baiser soit saint, à part. Un saint baiser, c'est aussi un baiser qui manifeste une vraie affection. Aimez-vous les uns les autres. Et le baiser ou la bise, c'est une manifestation visible de ce qui se passe dans le cœur. Bien sûr, on peut aussi montrer de l'affection par une poignée de main chaleureuse. C'est possible. On n'a pas toujours les mêmes relations les uns avec les autres. Mais l'amour fraternel conduit logiquement après un saint baiser. Hein, ça découle. On arrive vers ça. Le signe qu'on fait partie de la même famille. On a un même père. On a un même père. J'embrasse mon beau-frère, là. Je viens d'aller le voir, là. Au départ, on se serrait la main. Je l'embrasse, hein, parce qu'il fait partie de la famille, hein, de notre famille. Ben, c'est pareil dans la famille du Seigneur. Un saint baiser, c'est aussi un baiser qui est mutuel. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Et le meilleur, c'est lorsqu'il y a cet échange d'amour et d'affection des uns avec les autres, que le baiser puisse être réciproque. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, l'autre ne nous salue même pas ou ne nous adresse même pas un regard. Hein. Que ça ne puisse pas forcément nous offenser ou nous blesser. On ne sait pas ce que l'autre vit, on ne sait pas ce qui se passe en lui. Mais qu'on puisse être toujours prêt à accorder un saint baiser, accorder son saint baiser. On voit aussi que Paul dit « Saluez-vous les uns les autres ». Saluez-vous les uns les autres. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que peut-être certains ne se saluaient plus les uns les autres dans l'assemblée de Corinthe? C'est bien possible, hein? Malheureusement, et ça peut être encore le cas aujourd'hui, on réserve sa meilleure affection pour telle sœur, pour tel frère, et puis pour un autre, eh bien, voilà. On n'a pas le même geste, juste de la froideur, de l'indifférence, quand ce n'est pas parfois un rejet. Alors c'est certain, il y a des blessures qui restent. J'ai des blessures intérieures suite à des paroles qui m'ont été dites. Il y a des blessures, on a tous. Vous avez tous des blessures intérieures, c'est certain. Mais si on aime et si on pardonne, alors eh bien, ça n'empêche pas de redonner un saint baiser, une affection qui est sincère. Par Jésus-Christ, c'est possible. Le meilleur, bien sûr, c'est qu'il y ait confession et demande de pardon. Ça, c'est le meilleur. Mais vous le savez, je le sais, c'est malheureusement pas quelque chose qui est souvent automatique et naturel. C'est difficile. C'est rarement spontané. Parfois. Et quand ça arrive, oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Je ne sais plus, il y a quelques mois, une sœur à la fin du culte est venue me dire « Je te demande pardon. J'ai une parole, c'était sec, c'était pas gentil. » Qu'est-ce que c'est bon ? On se serre dans les bras et voilà. La transparence, l'amour fraternel, c'est touchant. C'est touchant. Par Jésus, c'est possible. Il y a plein de petites offenses aussi. Parfois, on passe au-dessus. Et c'est possible encore de pardonner et de donner un saint baiser. Maintenant, s'il y a quelque chose où c'est pas possible. Si le pardon semble impossible, alors Jésus dit, si ton frère a péché, va, reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Pourquoi Jésus donne cette recommandation? Parce qu'il veut qu'on chasse les obstacles à l'amour. Il y a plein d'obstacles à l'amour qui empêchent qu'on s'aime. Dieu veut les chasser. Il veut les mettre de côté. Et s'il y a un mur entre moi et mon frère ou ma sœur, ben Jésus donne une solution. Après, c'est à chacun d'évaluer si ça va, si on a suffisamment de grâce et d'amour et si la chose ne mérite pas, alors bien, on passe au-dessus l'offense. Et on l'oublie. En Jésus-Christ, on a des ressources surnaturelles pour aimer, pour pardonner. On a une puissance, hein, puissance de vie. Père, pardonne-leur. Ils ne savent ce qu'ils font. Ils ne lui ont pas demandé pardon. Hein. Père, pardonne-leur. Mais si la chose demeure un poids qui est pesant, qu'on est incapable d'abandonner au pied de la croix, alors Dieu dit, va, va. Va parce que aimer, c'est un impératif. Je veux que vous vous aimiez les uns les autres. Et Dieu veut qu'on se salue les uns les autres par un saint baiser. Un baiser sincère, un baiser aimant, un baiser mutuel. Alors, bien parfois, il faut chasser les ombres. Il faut savoir aussi que beaucoup de nos problèmes viennent de l'absence de communication. On peut parfois prendre un geste ou une parole comme vraiment quelque chose de méchant à notre égard. Et puis, quand on parle et qu'on commence à s'expliquer, eh bien, on peut s'apercevoir que finalement, ben, ce n'était pas du tout ça. Que ou ce n'était pas du tout ça, ou la personne est vraiment confondue d'excuses et demande pardon. C'est important, important de parler, de communiquer. Parce que le diable, il aime se servir de ça. Oh, rien qu'une petite pensée sur une parole ou un geste ou un manque d'égard, hein. User de prévenance réciproque. Mais parfois, ben voilà, quelqu'un manque de prévenance. Ben, le diable s'engouffre et là, il va faire sa tambouille, hein, faire germer dans notre cœur des pensées amères et des pensées mauvaises. Il va profiter pour tuer l'amour. Communiquons. Parlons-nous. C'est bon d'être transparent pour pouvoir se saluer par un saint baiser. Verset 22, j'arrive à la fin. « Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit anathème, maranatha. » Oh, c'est une parole sévère, là. Hein? Terminer sa lettre, hein? « Qu'il soit maudit. » Mais on voit là ce qui nous unit réellement. Qu'est-ce qui nous unit réellement? C'est l'amour pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui nous unit. On est ensemble parce qu'on aime le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça l'Église, un rassemblement de personnes qui est lié et qui est aimant envers le Seigneur. Par cette parole, Paul veut écarter ceux qui seraient là pour créer des problèmes, pour créer des divisions au sein de l'Assemblée. Et l'important, c'est d'être entre personnes qui aiment vraiment le Seigneur. Et quand on aime vraiment le Seigneur, tous les espoirs sont possibles. Quand vous avez quelqu'un qui aime le Seigneur en face de vous, mais il ne peut pas y avoir de problème. Parce que ben, il va reconnaître, parce qu'il va s'humilier, parce qu'il demandera pardon, parce qu'il voudra la paix. Il ne peut pas y avoir de problème quand on aime le Seigneur. S'il est le premier dans notre vie, alors il y a toujours un moyen de s'entendre, de se comprendre, de se pardonner et de s'aimer. Alors il dit que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. Mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. Et je termine simplement en disant, bon, je ne sais pas si vous êtes partis en vacances, si nous on va partir là, mais admettons vous partez en vacances. Vous écrivez une petite carte. Est-ce que vous pouvez terminer avec ces mots? Mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. Ça signifie, je vous aime tous, chacun pour votre part. Je ne vous demande pas de le faire comme une formule de politesse. Mais est-ce que vous pouvez l'écrire? Oh, mes frères, là, je ne sais pas de quelles assemblées vous venez si vous êtes de passage. Hein. Je vous aime tous. Je vous aime tous. Paul le disait. Qu'on puisse le dire aussi. Hein.